Quand on pense au mal absolu aujourd'hui, on s'imagine souvent une intelligence artificielle devenue complètement incontrôlable, ou ben une gigantesque multinationale sans visage. C'est toujours un truc abstrait, froid, très algorithmique, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais notre plongée dans les sources d'aujourd'hui, où on a épluché des textes théologiques traditionnels et dogmatiques, eh bien, ça dresse un portrait infiniment plus troublant. L'objectif de notre exploration, c'est de comprendre la mécanique d'une figure très ancienne qu'on appelle l'Inique ou l'Antéchrist.
Exactement. Et la grande surprise, c'est qu'on parle pas du tout d'un système désincarné.
Non, pas du tout. On parle d'un leader avec un visage bien humain qui prend le contrôle de l'intérieur.
Le décalage avec nos peurs modernes est vraiment saisissant, je suis complètement d'accord. Parce que la théologie classique rejette totalement l'idée d'un mal qui se limiterait à un simple concept ou à un genre de corps politique.
Ouais, nos sources sont unanimes là-dessus.
C'est ça, la menace, c'est ni un courant de pensée abstrait, ni une espèce de démon déguisé. C'est un homme ordinaire, enfin, un homme ordinaire, mais fortement aspiré par l'abîme, pour reprendre les termes exacts.
Attends, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a un problème de logique flagrant là-dedans. Si cette menace ultime n'est qu'un simple être humain, comment il peut subjuguer la planète entière?
C'est la grande question, oui.
Bah oui, je veux dire, il peut pas juste débarquer avec une armée mondiale sortie de nulle part et exiger que tout le monde l'adore. Ça paraît complètement impossible.
Bah, l'erreur, c'est de croire qu'il utiliserait la force brute ou la destruction frontale. En fait, les textes décrivent une stratégie beaucoup plus subtile qui passe par l'infiltration institutionnelle.
D'accord, d'où cette notion de contrefaçon dont on a parlé, cette idée d'un faux prophète qui met en place une religion universelle.
Tout à fait.
Pour bien comprendre, c'est un peu comme une attaque de phishing géante, en fait. Au lieu d'essayer de casser la porte d'une banque à coups de marteau, et il envoie un message qui ressemble à s'y méprendre à l'institution officielle, et au final, les foules lui donnent les clés elles-mêmes.
L'analogie est redoutablement juste. C'est exactement ce que l'une de nos sources appelle la singerie. L'Inique va pas dynamiter le temple pour en construire un nouveau à la place.
Il s'installe carrément dedans.
Voilà, il va s'asseoir dans le temple existant et faire croire qu'il incarne sa vraie légitimité. Il imite les institutions pour mieux les vider de leur substance. Il va même jusqu'à utiliser de faux miracles pour asseoir son autorité.
Mais psychologiquement, comment ça passe un truc pareil?
Oui.
C'est-à-dire...
Bah, pourquoi tout le monde tombe dans le panneau?
Un des textes suggère que cette subversion fonctionne parce que les gens confondent cette altération avec du progrès. En gros, on se laisse juste endormir par la promesse d'une fausse paix universelle.
Ah oui, complètement. Le besoin de sécurité, c'est vraiment le meilleur levier d'obéissance. Les gnomiques offrent une illusion de confort, un ordre qui anesthésie totalement l'esprit critique.
C'est effrayant quand on y pense.
Ou que ce leader calque le modèle original, donc le vrai Messie, pour mieux usurper sa place.
Ce qui crée une sorte de miroir inversé assez vertigineux dans nos lectures. J'ai vu ce passage sur la différence entre le Christ et l'Inique, où il parle d'une opposition ontologique.
Ouais, c'est le terme technique.
Mais concrètement, si on traduit ce jargon métaphysique en langage de tous les jours, ça donne quoi?
En termes simples, c'est une question de nature profonde. Pour le Christ, la théologie emploie le terme d'union hypostatique. Ça veut dire que Dieu et la nature humaine sont intimement, personnellement liés, alors que l'Inique, lui, ne connaît qu'une union morale.
Et ça implique quoi, cette union morale?
Les textes l'expliquent comme une suggestion démoniaque d'une intensité inouïe. Attention, c'est pas une incarnation du mal. L'Inique reste 100% humain.
Ok, donc c'est juste un homme.
Oui, mais sa volonté est entièrement accaparée. Elle est presque piratée par une malice totale. On oppose en fait l'humilité salvatrice du modèle d'origine à l'orgueil tyrannique absolu d'un homme qui veut être adoré comme un dieu.
C'est fascinant parce que d'un point de vue purement clinique ou psychologique, cette possession décrite par la théologie classique, c'est presque la description parfaite du narcissisme machiavélique.
Ah, c'est sûr.
C'est la soif de contrôle totalitaire à l'état pur.
La convergence entre ces dogmes anciens et la psychologie clinique moderne, elle est frappante. Ces textes, au fond, ils décortiquent simplement la mécanique de l'orgueil absolu.
Ce qui explique pourquoi la tradition conclut que cette figure récapitule toute l'apostasie historique.
Exactement. Il n'invente rien de nouveau. Il est juste le point culminant de toutes les petites dérives et corruptions accumulées par l'humanité au fil du temps.
Il concentre tout ce qui a déjà mal tourné, en somme. La cohérence de ces textes anciens est vraiment impressionnante. Bien sûr, on se contente de rapporter ses idées sans prendre parti, mais la précision de l'avertissement donne à réfléchir.
Absolument, ça pousse à l'introspection.
Et justement, ça nous laisse avec une vraie réflexion finale pour clore cette exploration. Si ces doctrines vieilles de plusieurs siècles mettent en garde avec une telle précision chirurgicale contre les dangers d'une paix universelle factice et trompeuse, comment les générations futures analyseront l'engouement frénétique de notre époque pour une connectivité mondiale toujours plus centralisée?
C'est une excellente question.
Qu'est-ce qu'on est en train de bâtir la machine de contrôle parfaite sans même s'en rendre compte, juste en attendant son futur pilote humain? Voilà un sujet qui mérite vraiment réflexion pour ceux qui nous écoutent.